C'est parti.
Maintenant, on a entendu les bénissances.
Ah, on va les bénissances. Les bénissances.
Yeah. Excusez, ça rentre pas bien dans ma poche.
Alrighty.
Good. Désolé d'avance pour ma voix. Un peu un reste de rhum, fait que ça se peut que j'aille vraiment me boucher au milieu. Je vais essayer d'atteindre le micro, ou d'y penser du moins, pour réparer vos oreilles. Ouais. Donc, comme je disais hier, on peut tourner dans deux Galates. Non, dans...
Deux Galates?
Dans Galates 3.
Ah. C'est une hérésie, hein?
Ouais. Donc, il y a deux semaines de ça, on avait parlé de justice ensemble avant le repas du Seigneur. Puis, ben, mon idée de ça, c'était un peu de donner la continuité de ce que j'avais commencé avec Habacuc. Parce qu'on avait vu l'origine de « Le juste vivra par sa foi ». Donc là, dans Romains, ce que j'avais dit, c'est que ça présente le juste. C'est quoi le juste? On n'a pas fait très attention à le contexte de la citation lors de mon dernier message, vu que c'était un peu plus concentré sur le repos du Seigneur, mais on avait compris l'idée générale que le juste, ben, c'est celui qui est justifié par Dieu. Donc, c'est celui qui hérite de la justice de Dieu, tout simplement. Fait que là, ben, si on continue dans cette ligne-là, ben, là, on est rendu maintenant dans Galates, où est-ce qu'on va voir, ben, ça va plus parler de la foi en tant que telle. Puis, on va lire, donc, dans Galates 3, les versets 6 à 18 pour commencer. Donc, verset 6. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. » Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet, par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. On vous prie ensemble. Seigneur, merci que tu nous donnes ce temps pour considérer ta parole aujourd'hui, pour considérer les promesses que tu nous as faites, puis l'héritage qu'on reçoit en toi par la foi et non par la loi. C'est toute une bénédiction que tu nous fais là, Seigneur. Donc, je te prie que ça touche nos cœurs, que ça puisse prendre racine vraiment profondément en nous pour qu'on puisse toujours se rappeler que c'est ton don gratuit de grâce qui nous fait vivre, qui nous donne la vie au moment de notre salut, mais aussi pour nos défis quotidiens également. Donc, je te remercie pour ça, Seigneur, et ouvre nos cœurs. Je te prie ça au nom de ton fils Jésus. Amen. Donc, c'est ça. Donc, on a vu c'était quoi le juste. Maintenant, on voit la foi qui est le moyen que je crois, comme que ce passage indique, qui nous donne accès de recevoir la justice de Dieu. La foi est donc présentée comme le moyen. Et dans le contexte de l'Épître aux Galates, c'est présenté en contraste très flagrant avec la loi. Pourquoi? Bien, comme vous le savez probablement, l'Église de les églises de la galaxie, comme il est écrit au début de l'épître, tournaient ben, vers l'apostasie, tournaient vers le judaïsme, si on veut. Ils se judaïsaient. Comme on peut lire au verset 6 et au verset 7 du chapitre 1. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer. Donc, c'est ça. Il n'y avait pas, il n'y a pas en soi un, il n'existe pas un autre évangile, mais il en promouvait un faux. Puis quel était donc ce faux évangile? Bien, comme on vient de lire, comme je viens de dire en fait, c'est par rapport au judaïsme. Donc, il essaie de judaïser les croyants de la Galatie. Ça, on peut le lire au verset 6 et 7, cette fois du chapitre 3. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut... Attends, non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Non, c'est dans le chapitre 2 qu'on lit ça. Oubliez ça. Bon. On va passer à autre chose. Mais pour contrer cette erreur, Paul utilise l'exemple d'Abraham pour rendre le tout très clair que ce qui avait rendu Abraham juste, ce n'était pas la loi, c'était la foi. Puis là, c'est là que là, on le voit au verset 6 et 7 du chapitre 3. Donc, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et de la même façon qu'Abraham a reçu cette grâce de Dieu, Dieu veut bénir toutes les nations. C'est ce qu'on peut lire au verset 8 et 9. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, la foi d'Abraham, la justice qu'Abraham a reçue, nous est imputée parce qu'on croit de la même manière que lui. Mais c'est là où la difficulté embarque pour un juif de l'époque. Car après la promesse qu'Abraham a reçue, la loi est venue, comme on l'a lu 430 ans plus tard. Donc, ça complique un peu, faut pas se le cacher, pour quelqu'un qui a été élevé là-dedans, c'est dans la loi, par les pharisiens, tout ça, ça complique un peu la compréhension. Faut se l'attendre. Pourquoi Dieu aurait-il donné la loi si le seul critère était la foi? Tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas été élevé là-dedans, encore une fois, qui a été élevé comme que la loi, c'est la réponse, puis il faut toute la suivre, puis tous les critères, puis même la loi orale, pas juste la loi écrite. Ça fait beaucoup de passer de juste la foi à où est-ce qu'avant on avait toute la loi et plus encore. Mais Paul, pourtant, il soutient que c'est bel et bien la manière d'Abraham que Dieu veut nous justifier. Il le soutient de cette façon. On va relire les versets 15 à 18, toujours dans le chapitre 3. Donc, frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet. Par la loi venue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc si j'aime beaucoup l'image que Paul utilise. L'image que Paul utilise, quand il dit littéralement qu'il parle à la manière des hommes, c'est très compréhensible pour nous. Quand on prend le temps de l'analyser, bien sûr. Donc, Paul nous indique que la promesse faite à Abraham est... c'était un testament, ce qui est écrit. Le même mot est parfois traduit dans la Bible par « alliance » également, mais l'idée ici, c'est vraiment celle d'un héritage qui attend d'être donné, tout simplement. Donc, c'est un engagement qui n'attend qu'une condition pour être réalisé. C'est dans le cas d'un testament, de nos jours, on s'attend, tu sais, la condition, c'est la mort du propriétaire qui donne son héritage. Dans ce cas-là, les humains attendent la descendance d'Abraham pour recevoir l'héritage, tout simplement. Donc, Bon, j'ai un peu de spoiler ce que je m'en allais dire. Quelles conditions cet engagement attendait-il pour délivrer l'héritage? Ben, c'est sûr que ça nous dit au verset 16 qu'on a lu. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc, sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, en l'attente de la possession de l'héritage pour nous, c'est l'attente de Christ, tout simplement. C'est ça. Donc, du côté de Dieu, ce qui devait être rempli était de faire venir le Messie. Et du côté de l'homme, c'était d'avoir la foi, tout simplement. Maintenant, on va relire les versets 15 et 17. On va sauter le 16. Donc, 15. « Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. » Verset 17. « Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. » Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ben, ce que Paul nous indique ici, c'est que si un testament fait par des mains d'hommes, il ne peut pas être brisé, il ne peut pas être changé, ou il peut être annulé par personne, combien plus est-ce que c'est vrai qu'un testament qui a été fait et forgé par les mains de Dieu ne peut pas être brisé, ne peut pas être changé, ne peut pas être annulé? On va faire un petit détour dans Nombre 23 pour lire juste le verset 19. J'aurais dû marquer ma page. Donc, Nombre 3, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a déclaré qu'il bénirait toutes les nations. Il va le faire. Rien ne peut l'empêcher de le faire. Puis maintenant, si on lit, on retourne dans Galates 3, puis qu'on lit le verset 18. « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » Ce qu'on doit comprendre ici, c'est ceci. S'imaginer que l'accomplissement de la promesse de Dieu se ferait par la loi, ça revient à s'imaginer que Dieu est menteur, qu'il ne tient pas ses promesses et qu'il change les conditions de contrat qu'il a déjà établi auparavant. Raphaël, je pense que tu as acheté un condo récemment. Yes. J'imagine que tu as un certain taux d'intérêt à payer sur tes paiements, sur ton emprunt. Est-ce que c'est à taux fixe ou à taux variable?
Fixe.
Fixe, yes. Bon, si demain...
Reprenez la vie personnelle.
Ouais, si demain, la banque t'appelle et te dit « Bon, ben ton taux fixe, désolé, oublie ça. On change ton taux d'intérêt, on va l'augmenter parce que ben la Banque du Canada a décidé de changer son taux
directeur.
Son taux directeur exact. » J'imagine, on se sent pas bien à ce moment-là. C'est comme « Non, c'est écrit sur le contrat que c'était ça le taux, puis c'est écrit que c'est fixe. » Non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est la même chose avec Dieu. Quand il prend un engagement avec nous, on ne peut pas le briser. Puis de l'autre côté, on ne pourrait pas aller vers la banque et dire « Ouais, ben désolé, là, j'ai pas assez d'argent, fait que je te décide de te payer moins d'intérêt, c'est maintenant. » Puis même chose pour notre loyer, on ne pourrait pas décider de dire « Ouais, laisse faire ce mois-ci, je vais te payer ça l'autre mois d'après. » Non, on a des paiements à payer, c'est engagé, c'est écrit, on a une parole. Il faut faire à la manière de Dieu, qui a juste une parole, lui également. Donc, c'est ça pour Dieu, comme j'ai dit. Il y a une seule parole, il n'a pas menti. En fait, il est incapable de mentir. Il ne s'en repentira pas, donc il ne changera pas d'idée par rapport à ça. Et il va le mener à son accomplissement, son contrat. Pour Paul, cela est très clair. Parce que, clairement, il nous le dit dans les versets qu'on a lus avant le verset 15. C'est écrit dans l'Ancien Testament. On va aller voir ça ensemble. C'est ce que nous disent les versets 8 à 14, en fait. Donc, on a déjà passé les 8 à 9. On va aller tout de suite au verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car elle est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Pour Paul, c'est évident que la loi ne peut pas nous amener la promesse, parce que tout ce qu'elle amène, c'est la malédiction. Car nul ne peut accomplir toute la loi, bien évidemment. Verset 11 maintenant. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc ça, Paul le dit dans ses mots lui-même. C'est évident là, que c'est la promesse. C'est évident que c'est la foi qui va amener du fruit, parce que c'est écrit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par la foi. Puis maintenant, verset 17. 12, excusez-moi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » C'est un verset un peu plus difficile à comprendre. Je ne cache pas, moi, personnellement, ça m'a demandé un peu plus de recherche, un peu plus de « Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Parce que le sens de la citation est un peu plus obscur. C'est souvent dans nos Bibles, mettons dans des commentaires bibliques ou des Bibles d'études, pour le Nouveau Testament, tu as genre ça de commentaires puis ça de texte, mais tu sais, dans l'Ancien Testament, surtout dans Lévitique, tu n'as presque pas de commentaires, puis en tout cas... Fait que c'est plus difficile un peu des fois de comprendre ce passage-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on en ressort? Mais c'est ça. La loi ne procède pas de la foi, comme qui est écrit. Autrement dit, la loi ne vient pas de la foi. Ces deux choses-là ne prennent pas leurs racines à la même place. Elles ne vont pas ensemble... alors on ne devrait pas les mélanger.
Ouais.
Ce sont deux choses destinées à deux usages totalement différents.
Amen.
Donc ça ne va pas ensemble. J'ai aimé ce que j'ai trouvé, le commentaire de Adam Clark, ce qui dit, « Elle, la loi, ne promet aucun pardon à ceux qui croient, mais elle requiert l'obéissance. Ce n'est pas qu'est-ce que tu crois, ben, en qui tu crois, ça c'est ce que la foi demande, mais qu'as-tu accompli, ça c'est ce que la loi demande. L'homme qui les accomplit à la perfection, en tout temps et en tout lieu, il vivra par elle. Mais si dans aucun cas il échoue, il perdra sa vie. » Puis bien entendu, on n'est pas parfait, donc on est garanti de perdre notre vie. Puis c'est là que c'était un peu confondant, difficile à comprendre, parce qu'on voit clairement que c'est écrit qu'on peut vivre par la loi d'une certaine façon. Fait que là, c'est comme « Ah, attends, mais il vient de dire que... » On vivait par la foi, fait que là, c'est comme, qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais pour vous donner une idée, dans ce genre de contexte-là, quand c'est le plus difficile à comprendre, on regarde l'idée générale du passage. L'idée générale du passage, c'est que Paul, il dit qu'on vit par la foi. Fait que s'il utilise ce verset-là pour dire qu'on vit par la foi, même si on ne le comprend pas aussi bien que lui le comprend, ben c'est que l'argument, il est bon. On peut se poser plus de questions pour chercher, mais il faut qu'on ressorte avec la même idée du même contexte que Paul dit tantôt de ce passage-là. Donc, c'est ça. Donc maintenant, je pense qu'on comprend un peu mieux l'argument de Paul. Mais deux questions peuvent, puis je crois en fait, nous viennent à l'esprit à ce moment-là. Puis Paul les anticipe, vu qu'il va leur répondre littéralement dans le texte, tout de suite après. Donc verset 19, « Pourquoi donc la loi? » Et verset 21, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? » Parce que on a vu ces deux choses. La loi vient pas de la foi, fait que là, ça veut dire qu'ils sont opposés, c'est tout ça. Ça nous fait gratter notre tête un peu. Qu'on va lire les versets 19 à 25 du chapitre 3 et on va sauter au verset 1 à 7 du chapitre 4 également après. On va commencer avec 19 à 25. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Maintenant, on va sauter au chapitre 4, les versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, répondre exhaustivement à toutes aux questions « Pourquoi la loi et la loi est-elle contre les promesses de Dieu ?» Ce serait plusieurs sermons à part entière en soi. C'est pas ça l'idée que je veux amener aussi, ici, aujourd'hui en tout cas. Mais on va regarder l'image que Paul utilise ici pour mieux comprendre. Donc, l'image que Paul utilise ici dans les versets, c'est l'image de l'adoption. Tout simplement. Lorsqu'on parle d'adoption, à quoi ça vous fait penser?
À l'adoption moderne.
Ouais. Qui est?
Qui est un petit bébé qui sa famille t'a abandonné ou que tu le prends dans ta famille.
Ouais. C'est à ça que ça nous fait penser. Mais c'est pas exactement. Le sens de, en fait, c'est pas le sens de l'adoption biblique, ni le sens du terme qui était utilisé dans la Grèce de l'époque. Puis le début du chapitre 4 l'explique très bien, on va passer au travers de ça. Mais c'est ça, l'idée c'est pas, on prend un orphelin puis on le met légalement dans une nouvelle famille. Ça c'est l'adoption moderne qu'on connaît, puis probablement que ça existait à l'époque d'une certaine façon, mais c'est pas l'idée qui est illustrée ici, en tout cas dans le passage, c'est pas ça. On va voir ce que les versets nous disent. On va relire les versets 1 à 7 tranquillement, avec quelques notes pour nous aider. Les versets 1 et 2 sont l'illustration que Paul utilise. On va lire ça ensemble. Versets 1 et 2 du chapitre 4. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc là, on voit, ça parle d'un héritier. Ça parle d'un enfant qui, bien évidemment, s'il est héritier, il est de sang avec le père qui lui donne son héritage. On va lire le verset 3. « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » Donc, nous, de la même manière que l'explication, que l'image qu'il vient de donner au verset 1 et 2, ça nous est arrivé d'une certaine façon. C'est ça. Nous, de la même manière, nous étions sous un maître, sous un précepteur, comme il est écrit au verset 24 du chapitre 3. Et comme le verset 23 il dit aussi, nous étions sous la garde de la loi. Donc, c'était ça, les tuteurs et les administrateurs, la loi. Et c'était ça qu'on voit aussi à la fin du verset 3, les principes élémentaires du monde. C'était ça qui nous gardait, c'était la loi. Versets 4 et 5 maintenant. Ça va nous décrire le temps marqué par le Père du verset 2. Donc, versets 4 et 5. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Donc, le temps qui était marqué par le Père, c'était quoi? C'était lorsque Dieu a envoyé son Fils, et qu'il nous a rachetés, nous qui étions sous la loi. Et ça, tout ça, c'est décrit sous le terme, à la fin du verset 5, de l'adoption. Donc le verset 1 et 2, l'image. Verset 3, qui nous, de la même manière, l'avons vécu. Et ça s'appelle l'adoption. Donc, versets 6 et 7. On va juste lire le verset 7. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. » Donc, tu n'es plus esclave, tu n'es plus un enfant dans la famille, mais tu es fils, tu es adulte maintenant dans la famille. Tu as pris ta pleine position dans la famille, tu as pris ta part à l'héritage. Tu n'es plus sous un tuteur, maintenant tu es une personne à part entière, si on veut. Tu n'es plus esclave, tu es libre. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, c'est ça, l'image de l'adoption dans la Bible, quand ça nous en parle, l'image qu'il faut se garder dans notre tête. C'est pas un enfant orphelin qu'on prend légalement dans une nouvelle famille. Non. C'est un enfant qui devient adulte dans la même famille. Tout simplement. Donc, si on veut, c'est plus... Ce serait, l'image se comprend plus comme un coming of age. Maintenant, je suis mature. Maintenant, j'ai 18 ans, j'ai le droit de voter. J'ai quelque chose à dire. dans les choses de la fin, si on veut. C'est ça. Donc, c'est ça, le temps marqué par le Père, c'est notre adoption, le moment du salut. C'est ça. Mais puisque l'adoption signifie devenir adulte, retourner sous la loi, donc sous les tuteurs, sous les principes élémentaires du monde, ça revient à dire qu'on veut redevenir enfant, qu'on veut redevenir esclave. C'est refuser la grâce du Père au final. C'est refuser l'héritage qu'il nous donne. Donc, non seulement désirer revenir sous la loi, c'est refuser la grâce de Dieu, mais c'est aussi agir contre sa volonté. C'est aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Puis pour ça, j'ai retenu Éphésiens 4. On va aller au verset 12 à 15, sur le même sujet. Non, Éphésiens 4, verset 12 à 15. Oh, il fallait choper un petit d'eau. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Pardon. Donc la volonté de Dieu pour l'Église, pour le corps de Christ, pour nous qui est chacun ses membres, c'est qu'on devienne adulte, comme il est écrit, jusqu'à ce que c'est ce qu'on vienne à l'unité de la foi. Puis ça se témoigne lorsqu'on devient à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est l'état d'homme mature. C'est quelqu'un qui est plus un enfant, justement, comme qu'on lit juste après. Donc, la volonté de Dieu, c'est ça, c'est qu'on soit un corps digne, un corps mature, comme la tête de notre corps est, Christ, donc. Comme Christ est mature, nous devons être matures. Et ça peut juste s'accomplir si on devient adulte. Si on reste enfant, mais là, c'est ça, on retourne dans le... Si on veut redevenir enfant... On veut revenir sous l'esclavage de la loi, mais on sort de la tutelle du Saint-Esprit. On retourne sous la tutelle de la chair, sous notre ancienne tutelle. Et c'est là qu'on perd, ben déjà, on perd le safeguard du Saint-Esprit, et puis, ben, on se met à agir dans la chair, parce qu'on est sous la loi. Puis là, ben, c'est là que verset 14, on redevient des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. On devient vulnérable à toutes les tromperies de l'homme. Donc, non seulement c'est ça, c'est pas. C'est refuser la grâce de Dieu, mais c'est aussi aller contre la volonté de Dieu et c'est se mettre en danger, nous et nos frères et sœurs autour. On va. Donc, on va continuer avec. Peut-être même terminer avec une dernière illustration des Écritures. Et pour ça, on va aller lire deux passages. On va retourner dans Galates 4. On va lire les versets 21 à 26 et après, on va aller dans Hébreux 12.
Le
3. Galates 4, 21 à 26. Galates 4, 21 à 26. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Puis là, maintenant, on va aller dans Hébreux 12. On va lire les versets 18 à 24 de Hébreux 12. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qu'on voit au travers de tout ça? Ben, il y a deux semaines, j'avais parlé justement du Mont Sinaï, fait que j'étais content de le retrouver dans ces passages-là aujourd'hui. Mais comprenez bien, Dieu a fait la promesse d'une descendance à Abraham. Abraham a donc décidé, par la chair, de se produire lui-même une descendance par Agar, qui a donné Ismaël. Mais sa descendance, selon l'esprit, donc selon la foi, ne pouvait pas venir de lui. Ça ne pouvait que venir de la main providentielle, miraculeuse et surnaturelle de l'Éternel, en Sarah. Il est vrai de dire que, comme j'ai dit il y a deux semaines, que la même justice du Dieu du Mont Sinaï vient nous habiter au moment de notre justification. C'est vrai, ça. Mais il ne faut pas oublier le chemin par lequel on a obtenu cette justice-là. Cette justice-là, la justice du Mont Sinaï, si on veut, la justice de Dieu, c'est pas par le Mont Sinaï qu'on l'a obtenue. C'est par la montagne de Sion, par la montagne de la foi, par la montagne de la terre promise, la montagne de la terre de la promesse que les Israélites ont obtenue par la foi. Donc, est-ce que c'était en montant le mont Sinaï qui nous demande « Qu'as-tu accompli? » Mais non, c'est pas en ce moment-là qu'on a obtenu la justice. C'était en allant par la montagne de la foi, la montagne de Sion qui nous demande « En qui crois-tu que nous avons obtenu cette justice? » Donc, ce serait aussi s'éloigner de nos racines, s'éloigner du roc solide que de retourner à la loi. C'est s'éloigner de Jésus. Et de la même manière qu'Abraham a manqué de foi lorsqu'il est allé vers Agar et qu'il a péché, aller vers nos œuvres revient à manquer de foi à Dieu et à lui désobéir et à être orgueilleux et à ce qui finit à être de l'idolâtrie envers nous-mêmes. Donc, la bénédiction qu'on a eue au moment de notre salut, ben, on l'a eue par Christ, par la foi. Et aussi surprenant que ça puisse paraître pour des gens qui le méritent aussi peu que nous, ben, Dieu il cherche à nous bénir encore plus que juste par le salut à un moment. Et la bonne nouvelle de l'Évangile est toujours aussi vraie il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Et toujours aussi vraie au jour de notre salut, aujourd'hui dans nos struggles de la vie puis dans les moments de foi qu'on doit avoir envers le Seigneur. Donc on peut s'approcher gratuitement de Dieu par la foi en laissant son œuvre agir en nous, pas en essayant de se bâtir un mont Sinaï à notre manière si on veut. Puis ici, c'est clairement ce que Paul dit au début du chapitre 3 de Galates. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, de la même manière que c'est notre salut, que notre salut est venu par la foi, au jour le jour, il faut continuer de vivre par la foi, puis juste avant, on a Galates 2:20, en laissant Christ vivre en nous, en essayant plus de vivre par nous-mêmes, tout simplement. Fait que c'est ça, on peut s'approcher justement de Dieu maintenant par la foi, en ayant confiance qu'il peut entendre et qu'il entend et qu'il désire entendre nos prières. Seigneur, merci pour ce temps aujourd'hui, qu'on considère la grande œuvre que tu opères en nous gratuitement par la foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est fou de penser que nous, le sable de la terre, tu veuilles nous bénir malgré toutes les erreurs et tous les manques de foi qu'on peut avoir. Mais Seigneur, je te remercie que pour toi, il n'y a rien de plus important. Puis il n'y a rien de plus précieux que justement des petits êtres comme nous qui virent nos regards vers toi et qui professent ton nom en pleine joie et en pleine confiance qu'on est écouté. Je te remercie que c'est ça, tu es à l'œuvre en ce moment à nous, même quand on ne le voit pas. Puis que c'est ça, par la foi, ben on a un sixième sens. Par la foi, on sait que tu es à l'œuvre, même dans l'invisible. Par la foi, on sait qu'on obtient ce que tu nous promets, même quand on ne l'a pas encore reçu. Par la foi, on regarde vers ce que tu nous as promis, vers la Jérusalem qui s'en vient. On regarde vers la montagne de Sion, pas vers le mont du Sinaï. Puis on te remercie que tu nous as scellés du Saint-Esprit comme un gage, puis qu'on est garanti d'avoir cette éternité avec toi. C'est précieux, il n'y a pas de mots pour le décrire. Puis c'est d'autant plus précieux justement que ce soit toi qui agisses tout ça en nous. Je te remercie pour ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.